And so far, and that, you know, this is an iterative process, so we've only had a response to three of the reports so far. I think in the next few weeks, we expect the next parliamentary debate about the next report. So far, there have been three promises of three referendums. So the Irish government has so far said, yes, we're not agreeing with everything. Some things we want to have further discussion about, so we're going to send it off for further discussion. That is kicking it into the long grass. But on three issues, we agree we need to have a referendum. So the government has given an undertaking that by the first part of 2015, there will be three referendums on three issues. One is on same-sex marriage. So Ireland could be about to bring in same-sex marriage, which obviously would be a very good move. Secondly, to reduce the voting age to 16. And thirdly, this is one of those more technical issues, whether to reduce the age of presidential candidates. At present, you need to be 35 before you can run as a presidential candidate. So the question is whether to remove it, to reduce that age. Now, that's three referendums so far. There's still a lot more reports to be discussed, so we may have more promises before this is all over. So let me conclude with a couple of final points before I stop speaking. I think, and I know I'm biased, but I think it's safe to say that the Constitutional Convention has been a success. And it's been a success over and above what many of us could have hoped for. It has got through its agenda in a timely fashion. It has kept to its budget. It has kept to its time. Many of the critics, many of whom were very public in their criticisms, many of them have now come out publicly saying that they've changed their mind and that they are now supporters of the process. We've already seen some tangible results, at least in the form of promises of referendums. The Prime Minister has also started to make noises to suggest that we might have another convention in the future. He rather likes this experiment, and I think the suggestion is he might like to try it again with some other proposals. And so my final point is that this is an experiment that has worked, and I would strongly recommend it to you. Thank you.
Thank you very much, Professor Farrell, for this illuminating speech. On peut donc maintenant passer à toute une série de discussions, de questions. Pour les questions pour le professeur Farrell, elles peuvent être posées évidemment en anglais ou en français. Je me tourne vers notre interprète si elle peut effectivement faire la traduction vers l'anglais pour lui. Donc voilà, je vous propose, lorsque vous voulez prendre la parole, de vous présenter et de ne pas oublier d'allumer le micro, sinon vous ne serez pas entendu par l'interprète. Voilà. Et de l'éteindre quand vous aurez terminé de parler. Oui, monsieur.
Et donc Marc Coles, je suis premier échevin à Uccle et présidentiel de l'Association des villes et des communes bruxelloises, donc je suis un élu local. Je partage d'ailleurs très largement ce qu'a dit monsieur Blondiot, hein, notamment quand il a parlé de la difficulté de la participation, parce qu'il faut une démocratie participative, et pour moi, l'un et l'autre sont nécessaires, tant la démocratie participative que la démocratie représentative. Il n'y a pas de véritable démocratie sans les deux. Il faut des citoyens qui s'intéressent à la chose publique. On a donc tendance, tout à fait naturellement, à magnifier cela. Dans la pratique, je suis responsable de l'urbanisme dans ma commune, donc chaque semaine, j'ai des commissions de concertation. Quand on vient pour un projet pour rénover des classes d'une école, même pas pour ajouter une classe supplémentaire, hein, simplement parce qu'il faut rénover des bâtiments où il pleut dans les classes ou quoi, et qu'il y a une enquête publique, on vient vous dire l'école dans un autre quartier, mais hein, même s'il est là depuis 100 ans. Donc ça, c'est la réalité. C'est parfois des sommets d'égoïsme. Ceci dit, ça ne doit pas nous empêcher de concerter, parfois d'entendre un certain nombre de remarques pertinentes. Mais c'est vrai que c'est aussi une difficulté. C'est une difficulté. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que vous n'avez pas parlé d'un autre volet. C'est ce que j'appellerais le pouvoir en miettes. Parce qu'une des difficultés auxquelles on est confronté, et je ne pense pas que ce soit un phénomène uniquement belge, c'est qu'au fond, on est élu, on rencontre des citoyens, on se dit même parfois que certains de leurs suggestions, ben, c'est intéressant, c'est raison, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on explique pourquoi. Bon, ça, c'est le débat politique. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de compétences et de moyens d'action. On est dans une, technostructure, un pouvoir très éparpillé, où finalement on doit prendre son bâton de pèlerin et aller voir X interlocuteurs pour, dans X années, obtenir que quelque chose soit réalisé pour lequel on était d'accord avec ce que les citoyens proposaient. Et ça, c'est peut-être aussi une des causes du fossé entre l'élu et le citoyen. Et puis on a parlé ce matin aussi du Parlement. Ça, moi, mon sentiment personnel, je vais peut-être en choquer certains ici, mais ça ne fait rien, c'est qu'au niveau local, plus ou moins, les choses se font, il y a des dialogues, il y a des participations citoyennes. Mais en tout cas en Belgique, mais ce n'est pas seulement en Belgique, c'est aussi vrai dans d'autres pays, où il y a un véritable échec, c'est au niveau des parlements. Les parlements ont abdiqué un peu partout leur rôle, sont souvent devenus, pour de très nombreux projets de loi, projets d'ordonnance, comme on les appelle à Bruxelles, des simples chambres d'entérinement. Donc le gouvernement décide, et puis les parlementaires de la majorité, quoi qu'ils en pensent, sont priés le doigt, la couture le long du pantalon, de voter, comme on leur dit, sans même de modifier une virgule ou un mot, même sur des questions purement techniques. Et donc ce n'est pas tellement les institutions qu'il faut modifier. Sans doute qu'il faut modifier les institutions. Sans doute qu'il y a peut-être des débats, on pourrait discuter s'il ne faut pas une partie de députés ou de parlementaires cooptés, hein, qui permettent peut-être d'apporter un certain nombre d'expériences ou d'indépendance éventuellement. Mais fondamentalement, il faut que les parlements reprennent les pouvoirs qu'ils ont peu à peu abandonnés vis-à-vis de l'exécutif. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et je crois qu'il y a deux moyens aussi qui pourraient être utilisés. Un qui a été cité, notamment par le président, c'est l'évaluation des politiques publiques. On doit comprendre qu'une évaluation, ce n'est pas une critique. On n'est pas là pour donner un bulletin nécessairement à ceux qui ont assumé telle ou telle responsabilité. Mais qu'il faut effectivement, de manière systématique, faire une évaluation, notamment de tous les textes législatifs qui sont votés. J'avais d'ailleurs fait voter en son temps au Parlement, mais je crains que ça n'a pas été appliqué par après, une disposition du règlement qui obligeait, après 5 ans, quand on avait voté une disposition législative, à ce que le gouvernement vienne faire un rapport sur l'évaluation de l'application de cette disposition. Mais c'est vrai pour toutes les politiques publiques que l'on... Je suis toujours été étonné, j'ai quand même siégé 15 ans dans ce Parlement, qu'on discutait beaucoup des budgets, après tout, ce n'est qu'une prévision, ce n'est qu'un objectif, et les comptes, c'était fait en 2 temps, 3 mouvements, si je peux m'exprimer ainsi. Oh, les comptes, c'est le résultat de ce qu'on a fait, c'est l'occasion de demander... Et puis, il y a aussi, si on veut rendre la parole aux citoyens au niveau des parlements, il y a un vieux moyen, qui n'est pas nouveau, hein, ça existait même avant que les parlements existaient, c'est le droit de pétition. Le droit de pétition existe, hein, bien entendu, enfin, ce qu'on en fait dans les différentes assemblées, on peut aussi en débattre. Moi, je pense que systématiquement, quand il y a des pétitions signées par un certain nombre de personnes, même si on peut s'interroger sur leur contenu, sur tout ce qu'on veut, il ne faut pas simplement qu'on transmette ça à qui de droit, il faut une audition au Parlement qui soit réellement faite, où les citoyens viennent expliquer, où le ministre responsable réponde aux citoyens, éventuellement qu'il a tort, qu'il s'est trompé, ça c'est un autre débat. Mais je crois qu'on doit permettre cet accès, et donc de manière générale, refaire revenir les citoyens dans les parlements par des processus d'audition beaucoup plus larges. Pour le reste, moi je défends la démocratie représentative, parce que c'est vrai que les citoyens sont tout à fait capables de prendre des décisions. Hein? Un bon exemple, c'est les jurys populaires dans les cours d'assises. Aux États-Unis, ils peuvent même décider de la peine de mort de quelqu'un. Donc, quelle décision plus terrible peut-elle être prise? Bon, en Belgique, on peut quand même condamner quelqu'un à 30 ans de prison, etc. Donc, ce sont des décisions très lourdes. Ce sont des citoyens qui le sont faits, mais qui n'ont pas effectivement alors d'intérêt personnel, qui ne sont pas le fruit d'un lobbying ou de l'autre, mais qui font ça uniquement pendant un moment déterminé. À un moment donné, il y a aussi des élus qui doivent gérer, qui doivent prendre des responsabilités, et ça, il doit y avoir un processus électoral. Et je terminerai par là. Moi, je crois qu'aussi, une des raisons du fossé grandissant, et ce n'est pas du tout ce que pense mon parti, hein, mais ça, c'est un détail, c'est qu'on est évolué vers une culture des voix de préférence. On est dans un système où ce qui compte, ce n'est plus que le nom de voix de préférence que vous receviez. Alors, on dit que c'est très démocratique. Oui, quand c'est un élu par circonscription, quand c'est un système de liste en Belgique, hein, où vous choisissez X candidats sur une liste avec des votes groupés, ça l'est parfois moins, et finalement, l'enjeu, c'est éventuellement de venir moins au Parlement, avoir 5 voix de préférence de plus que son co-listier. Hein, c'est parfois d'ailleurs ça quand on voit le résultat de ceux qui sont élus ou qui ne sont pas élus. Donc, je pense qu'il faudra avoir aussi un jour une réflexion sur le travail parlementaire et sur comment faire connaître à la population ce travail. Et donc, peut-être un sujet d'un colloque futur.
Merci, monsieur. Avant de rendre la parole à monsieur Blondiot, madame voulait intervenir.
Voilà, Madame la Présidente du Parlement régional, bonjour, je m'appelle Françoise Dupri. Je n'avais pas l'intention du tout de prendre la parole, mais il y avait un peu de provocation dans l'air, donc je souhaite quand même dire, au nom des collègues qui sont ici, et en mon propre, Dieu sait si j'ai eu l'occasion d'observer pendant quelques années, que je ne partage pas l'avis de Marc Kohl sur la déchéance des parlements. Par contre, je partage son avis sur le fait qu'un certain nombre de sujets ont un aspect technique, que des expertises sont nécessaires. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a moyen de faire bouger les lignes en termes de mode de fonctionnement et qu'il n'y a pas de raison de penser qu'un Parlement, qui par essence est représentatif dans un fonctionnement de démocratie représentative, ne change ses méthodes de travail. Elles ne doivent pas nécessairement être frontales, elles ne doivent pas nécessairement se passer de consultation des gens, elles ne doivent pas nécessairement passer par des temps de questionnement fixes. Bref, il y a moyen d'imaginer des parlements qui se respectent, qui fonctionnent autrement. Donc voilà, il y a peut-être des crises d'idéologie, il y a des crises de rapport à la presse, il y a des crises de tout genre, mais en soi, ce modèle doit pouvoir évoluer. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on est éventuellement capable de faire en réfléchissant un petit peu. Alors moi, je voulais, j'en profite, nous avons connu ici, moi j'ai participé à un moment donné à ça, une opération appelée G2000, pour autant que je me rappelle, je ne sais pas si on en a parlé. Le G2000 était une organisation de consultation des citoyens avec les parlementaires qui ressemble très très fort à ce que monsieur a exposé. En tout cas, peut-être pas dans ses sujets, ni dans sa sélection, ni tout ça, mais dans ses modes de fonctionnement. Petit groupe, tout le monde a la parole, on s'exprime, etc. Et nous avons reçu, les présidents d'Assemblée ont reçu les recommandations faites par les citoyens à cette occasion-là. C'était une tentative aussi d'illustrer ce type de choses. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir, dans ces processus-là, qui sont très fins, évidemment, parfois un peu difficiles, fort délicats, comment ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de s'exprimer pour des raisons culturelles, pour des raisons d'appartenance sociologique difficile, pour des raisons de non-scolarité, pour des raisons de... J'en sais rien, moi, il y a beaucoup de raisons de ce genre. Pour moi, elles sont essentiellement socio-économiques. Comment est-ce qu'on arrive aussi à tenir compte de leurs paroles? Parce que là, il y a quelque chose à réfléchir en permanence. Il ne suffit pas de les avoir choisis au hasard et de les asseoir autour de la table et de dire « vous avez aussi droit à la parole ». Je crois que malheureusement, ça va plus loin. Et donc, pour moi, ça, c'est essentiel dans ce processus de démocratie participative. Il ne peut pas s'agir uniquement des gens qui savent déjà participer. Parce que, à tout prendre, ils ont déjà beaucoup de canaux de participation. C'est cette réflexion-là, je voulais quand même la mettre ici. Excusez-moi, mais... Non, allez, Marc, n'exagère pas. Ces parlements peuvent bouger, ces parlements, d'abord, ils fonctionnent et ils peuvent évoluer aussi dans le bon sens. Autant que tu veux, mais je ne vais pas monopoliser la parole, ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Merci, madame. Une intervention ici et puis on rendra la parole à nos deux conférenciers de ce matin.
Merci, je m'appelle Julie de Grotte, je suis députée bruxelloise et chef de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je trouve que l'échange qui a lieu maintenant et qui est bien apparu lors des différents exposés, c'est cette différence entre la démocratie participative, qui est l'objet de notre colloque, et la représentativité, ou plutôt la légitimité de nos institutions. Et quand même, voilà, Hamza Fassifiri l'a rappelé, on est ici dans une enceinte parlementaire qui se doit d'être, je ne sais pas si elle est représentative, mais en tout cas légitime, parce que c'est ça notre urgence, et vous l'avez rappelé aussi, M. Pillet, dans votre introduction, notre urgence, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on est légitime dans le sens accepté par la population? Et on mélange souvent les deux. C'est vrai qu'on se dit souvent, parfois avec un peu de facilité, vous l'avez exemplifié, M. Blondieu, on se dit, bah, tout compte fait, pour être légitime, organisons la démocratie participative. Peu ou prou, bien ou mal, beaucoup ou un peu... pas toujours à bon escient et pas toujours à la bonne échelle. Et on se trompe donc parfois en se disant, bon allez, pour être légitime, pour être compris, pour être enfin accepté par la population qui ne nous aime pas, organisons un peu beaucoup, espérons, de participation, de démocratie participative. Et donc, pour moi, c'est vraiment lancinant Parce qu'évidemment qu'ici au Parlement, moi j'ai présidé le Parlement, comme Hamza l'a rappelé, jusqu'à avril dernier, ce Parlement francophone bruxellois, évidemment qu'on est ici, on travaille, moi je suis entourée de députés qui se bougent et qui, tout comme moi, ne sont pas vus comme représentatifs ou légitimes par le blogueur, celui qui répond directement sur un article en ligne, etc. Et donc c'est pour ça que j'avais imaginé, avec le bureau du PFB, j'avais imaginé ces jeudis de l'hémicycle. Avoir un lieu de concertation, les jeudis de l'hémicycle, dans un lieu signifiant, qui est le lieu ici du Parlement, avoir l'associatif qui puisse s'exprimer. Alors, première question, et je le dis moi-même, est-ce que les députés se retrouvent là-dedans eux-mêmes? Allez, toute la séance, on était 4 députés, on est un peu plus maintenant, on est 89 au total. Mais je suppose que chacun, aujourd'hui, est en train de faire par ailleurs ce qu'il trouve qu'il doit faire. Donc, je ne dis pas ça de façon critique. Je dis ça parce qu'on voit bien, est-ce que le député lui-même se retrouve dans cette recherche participative. Et là, je dirais que pour se modifier en profondeur, il y a deux choses. Et ça m'a interpellé, M. Pillet, dans votre introduction, ce que vous disiez. Un, pour se transformer en profondeur. Un, effectivement, avoir des temps de réflexion, une chambre de réflexion, à l'intérieur ou pas à l'intérieur du Parlement, qui n'a pas le même temps que cette démocratie participative immédiate. Je donne un exemple, on a travaillé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 3 ans sur les états généraux des médias et de l'information. Vraiment, les médias, ça change, l'immédiateté, etc. 3 ans, on a vu tout le secteur. Et puis, on a Tecteo, pour ceux qui sont belges, on a tout d'un coup une décision qui court-circuite totalement le temps de réflexion parlementaire. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On jette nos 3 ans de réflexion à la poubelle? On essaie de se dire non, il y a un temps différent et on en tire d'autres expériences. Voilà. Première chose, donc chambre de réflexion. Et ça, c'est pour beaucoup de sujets. Deuxième chose, c'est effectivement l'évaluation des politiques publiques. L'idéal de démocratie délibérative, comme vous l'avez dit, M. Blondiot, produire des décisions plus légitimes. Alors là, quand même, on doit, je suis désolée de le dire à la présidente du Parlement régional bruxellois, on doit changer nos méthodes de fonctionner. Allez, on introduit une question orale qui est prise en considération 15 jours après par le bureau, qui, parce qu'on a tous beaucoup de trucs, il y a un budget qui arrive, etc., est peut-être posée 2 mois après. Moi, hier, je pose une question orale qui est posée 2 mois après que je l'ai introduite. Et le règlement me dit que je dois une question orale, je ne peux pas sortir de mon texte, je dois le lire tel quel. Mais mon texte, il est dépassé par la vie, par l'événement, par ce que j'ai moi à dire d'ailleurs, par ma subjectivité qui a changé depuis 2 mois. Et donc là, on doit avoir beaucoup plus une réactivité, sinon évidemment que le citoyen lambda, comme on dit, eh ben, lui, il se sent du coup plus entendu, plus représenté par celui avec qui il chatte au moment même, à la sortie d'un article, évidemment, que le député qui pose une question 2 mois après, exactement telle qu'elle, le ministre répond parce que c'est un collaborateur qui a fait la réponse, donc il ne sort pas de sa réponse, etc. Il n'y a pas vraiment une réactivité comme on a, par exemple, beaucoup plus, comme vous le disiez, dans le système anglo-saxon. Moi, j'adore l'image, déjà. Et par ailleurs, je n'aime pas les systèmes anglo-saxons pour d'autres raisons. Mais l'image, ils sont debout et ils se répondent. On a 2 bancs et on est debout. On se répond debout. On n'est pas là comme des ronds de flanc assis à se parler de façon extrêmement formelle. Et donc, je pense que vraiment, on doit revoir en profondeur notre système. Sinon, en fait, vous m'avez vraiment interpellé sur quelque chose que je n'avais pas vraiment... On revient à ce pourquoi on a fait cette démocratie, c'est-à-dire par des gens qui détestaient la démocratie. Une démocratie en Belgique censitaire, on est d'accord, avec une élite qui, tout compte fait, fonctionne mieux. Et donc, les 3 pouvoirs, Montesquieu, on a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et nous, ici, les parlementaires, on est la première branche du pouvoir législatif, les représentants du peuple, aujourd'hui ça signifie plus rien, c'est pas ça que ça signifie. On n'est pas ça, l'idéal de Montesquieu, les représentants du peuple, mais moi quand je présidais à la place d'Amzala, on voit une armée d'ordinateurs ouverts, tout le monde qui est sur Facebook, Twitter, etc. Ça se passe ailleurs, autrement, à une autre vitesse. Et donc on doit revoir ça. On doit revoir, sinon on reste effectivement à cette démocratie pensée par ceux qui ne l'aimaient pas.
Merci madame. Je propose directement, sans transition, qu'on repasse la parole à nos intervenants. On viendra vers vous madame sans difficulté.
Oui, je sors de mon rôle parce que je ne préside pas la séance maintenant, mais je demande à mes collègues parlementaires de laisser ceux qui n'ont pas l'habitude de l'hémicycle s'exprimer d'abord, et puis vous aurez le temps, et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Merci de votre compréhension.
Monsieur Blondiot, si je ne vous vois pas, mais...
Oui, si on ne se voit pas, c'est très compliqué pour prendre la parole. Je ne veux pas non plus la mobiliser. Alors, quelques remarques très, très générales. Je focalise mon attention, mes recherches sur la démocratie participative, mais à mon avis, ça ne peut pas suffire. C'est-à-dire la mise en place de lieux où se rencontrent la démocratie institutionnelle et les citoyens, une forme d'interface entre les deux, ça suffira pas à résoudre les problèmes de la démocratie. Et je suis partisan également d'une réforme institutionnelle en profondeur. Lorsque vous avez dit, monsieur, que les parlements ne sont que des chambres d'enregistrement, pour moi, c'est aussi un des éléments du problème, et la réforme constitutionnelle est aussi un objectif à obtenir. C'est-à-dire, je pense la démocratie, la réforme de la démocratie dans trois directions qui doivent être envisagées ensemble et simultanément. Réformer la démocratie institutionnelle, ça me paraît impératif, mettre en place la démocratie participative et faire en sorte, mais là ça demande des innovations de plus grande ampleur encore et des réformes de plus grande ampleur, faire en sorte de construire un public actif, réformer les médias, réformer l'éducation, etc., revenir à un idéal d'éducation populaire, etc. Pour moi, les trois choses doivent bouger ensemble. Deuxième remarque, je pense que la démocratie, on voit habituellement comme un jeu à somme nulle, la démocratie participative. Tout ce que les citoyens trouveraient comme reconnaissance serait enlevé à la démocratie représentative et serait enlevé en particulier à l'institution parlementaire. En France, les parlementaires n'aiment pas la démocratie participative. Ça, très très clairement, ils y voient une concurrence et le risque qu'on leur prenne le peu qui leur reste. Je pense différemment. Et je ferai référence, par exemple, à une initiative française qui s'intitule Parlement et citoyens. C'est une plateforme numérique qui permet à des parlementaires de tester et de renforcer leurs propositions de loi via une consultation citoyenne sur le net. C'est-à-dire, on a un parlementaire qui a une idée de législation, qui va la soumettre aux citoyens, qui vont la discuter, qui vont l'enrichir, qui vont, et tout ça de manière transparente, sur un forum qui est relativement ouvert et interactif, avec cette idée que la proposition de loi en sera renforcée, et que, ce qui est le cas aujourd'hui, il aura, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il aura quelques chances de l'avoir discuté au Parlement. Nous avons une maîtrise aujourd'hui par l'exécutif de l'agenda législatif qui est à peu près total, et pour qu'un parlementaire puisse faire passer une proposition de loi même à la discussion, il a très peu de chances d'y parvenir. Et ce soutien citoyen à l'initiative parlementaire, à mon avis, pourrait contribuer à renforcer le rôle du Parlement. C'est-à-dire, c'est pas un jeu à somme nulle. Je pense que le Parlement peut se renforcer en cherchant des appuis et en cherchant à dialoguer avec les citoyens. Il y a quelques expériences, quelques plateformes numériques qui me paraissent importantes de ce point de vue. Il me semble aujourd'hui, et ça c'est un autre point, que l'état du débat parlementaire, le fait qu'il soit à ce point contrôlé par l'exécutif, fait qu'il y a des questions et des législations essentielles qui n'ont pas fait véritablement l'objet d'un débat public. Et donc, enrichir le débat parlementaire par un débat préalable avec les citoyens, par les outils de la démocratie participative, peut contribuer à résoudre cette situation. Alors, on peut envisager que ce soit l'Assemblée principale qui soit l'animatrice de ce débat, sous différentes formes. On peut imaginer que l'une des deux assemblées, quand il y a une situation de bicamérisme, se consacre à ça, et effectivement à enrichir le débat, à prendre le temps de consultation, de pratiquer vraiment la démocratie délibérative. On peut envisager, comme en France, je crois que c'est en cours, on peut envisager que le Conseil économique et social en France, Conseil économique et social environnemental, prennent en charge cette... Mais il est clair qu'on ne peut pas en rester là et que l'innovation démocratique passe par un enrichissement du travail parlementaire. Autre élément, le droit de pétition, pour moi, c'est quelque chose de précieux. C'est une forme d'initiative citoyenne, on le voit au plan européen. L'initiative citoyenne européenne, avec toutes les limites et les difficultés, c'est une avancée démocratique. Je prendrai l'exemple d'une municipalité en France qui fait vraiment de la démocratie participative. Il doit y en avoir, à mon avis, une demi-douzaine. Hein, c'est relativement peu, mais qui jouent le jeu vraiment, qui se sont convertis vraiment à cette logique, qui est Arcueil dans la banlieue parisienne. Les conseils de quartier ont un droit d'initiative et le conseil municipal, l'assemblée communale, s'oblige à délibérer sur chacun des vœux ou en tout cas chacune des demandes faites par les conseils de quartier. Et donc cette obligation de justification et de débat me semble quelque chose de très précieux pour animer la vie démocratique locale. Il y a une effectivité finalement de la discussion citoyenne au regard de cette exigence de justification, c'est-à-dire cette exigence de retour. Il est légitime que les représentants ne suivent pas les citoyens, mais il est totalement obligatoire qu'ils se justifient, c'est-à-dire qu'ils répondent, qu'ils argumentent leur position.